Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello l'équipe, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Fary, LP et Pierre Demar. Bienvenue dans Entre Mecs. Mes amis, comment ça va?
Ça va, hein?
Bien.
Un peu stressé ici à ma gauche. Sinon.
Mais grave, bien sûr. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci.
C'est trop cool. Est-ce que je peux attaquer direct avec une question très honnête?
Il est prêt. Donc tu peux y aller, il attend que ça.
Est-ce que vous arrivez à dire facilement « je t'aime » aux gens que vous aimez?
Non, je dis « je t'aime » assez difficilement.
Ok.
Ouais. Après, je pense pas avoir été beaucoup amoureux aussi dans ma vie, ce qui fait que c'est même pas une question d'avoir le « je t'aime » facile ou non, c'est plus « faut d'abord le ressentir pour le dire ».
Ouais, mais t'as de la famille, enfin.
Oui, bien sûr, mais pareil, avec la famille, je pense que c'est de plus en plus maintenant déjà. Voilà, avec ma mère, on se dit plus facilement « je t'aime », etc. Okay. Avec mon père, c'est autre chose.
C'est pas bizarre.
Mon frère, par exemple, pas du tout.
Parce que quand, pourtant, on le sait, mais... quand enfant et tout, on s'est pas habitué à dire « je t'aime » et qu'on commence à le dire plus tard, tu sais, c'est presque pas une habitude. Donc, tu sais, il y a un truc presque où tu forces un peu le truc.
Ouais, bah en fait, c'est... Déjà, il y a l'écrire par message, puis après, il y a le dire au téléphone, puis après, il y a le dire en face, quoi. Tu sais, il y a des strates un peu, il y a des étapes. Donc, voilà,
au début, c'est... Hein.
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, maintenant, on peut se le dire en face sans problème. Mais c'est vrai que non, ça a été un travail, non. Mais ouais, c'était pas si évident que ça.
C'est particulier à, comme rappel, quoi. Je pense que c'est des choses qu'on a tellement l'habitude de ressentir qu'on a l'impression que c'est évident. Après, moi, dans mon couple... En fait, elle le dit tellement que j'ai l'impression qu'elle le dit pour moi. C'est vraiment le leitmotiv de la journée. Mais du coup, j'ai l'impression que je suis moins fort en « je t'aime » que elle. Du coup, c'est vrai, c'est vraiment au quotidien, j'ai du mal à... J'ai le sentiment que c'est tellement attendu que je le dise autant que elle, que j'ai l'impression que c'est un peu fabriqué des fois. Et du coup, j'ai pas tendance à le dire beaucoup, quoi.
Est-ce que t'as l'impression de plus lui montrer que lui dire?
Non plus.
Merci, ciao.
Non, parce que c'est aussi un truc... c'est un truc dont elle fait part aussi, tu sais, le fait que je sois pas assez démonstratif. En fait, je sais pas si c'est un truc d'équilibre. Parce que dans des relations précédentes, moi, j'avais le sentiment d'être celui qui était le plus démonstratif des deux.
Mais c'est-à-dire que ça te pèse un peu? Genre, tu réfléchis dans ta tête, tu dis, attends, ça... Je ne le dis pas assez, comment je peux être plus démonstratif?
Je me le dis, je me vois faire des choses, mais je le fais pas particulièrement.
Dans ta tête, tu as des preuves d'amour.
Je suis en panique. Ouais, non, j'ai l'impression que je ne suis pas très bon en amour.
Ah, carrément?
Ouais. Je pense que je suis pas très très bon.
Ah ouais?
Ouais, il y a des gens, ils ont des capacités, des qualités.
En amour ou en démonstration de l'amour, juste?
Ouais, les deux. Hein.
Ok.
Ouais. Les deux, parce que je sais même pas quel âge vous avez d'ailleurs, mais...
T'as quel âge?
27.
J'ai 22.
Ah oui. Je t'aurais dit un peu plus jeune. J'ai commencé à être artiste très très tôt. Donc j'avais 17 ans. C'était déjà, tu sais, comme un... Enfin, moi j'ai fait mes premières scènes, j'avais 11 ans. Mais qui repart très loin, biographie.
Bon, je suis né en 91 à la base, je vais t'expliquer vraiment. En fait,
pourquoi je m'appelle Fary? En fait, à la base... j'ai commencé la scène à 11 ans, mais j'ai commencé à, tu sais, comme un centre de formation dans le foot où tu sais que ça va être ça ton avenir. Moi, c'était aux alentours de 17-18 ans. Donc, je savais que quoi qu'il arrive,
ta vie s'est focus là-dessus.
Voilà. Et du coup, en fait, être artiste très tôt, ça te conditionne à être un petit peu auto-centré.
Okay.
Et c'est pas le mieux quand t'es dans des relations avec les gens. Donc je pense que je suis pas très bon en ça.
Mais si t'en as conscience, ça veut dire là tu commences à le travailler ou c'est...
Pas du tout. Du tout. Ouais, plus ou moins. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent se faire de façon naturelle. Donc avant d'essayer de changer les choses, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que ça c'est une des raisons, mais c'est pas toutes les raisons. Donc j'essaie de, je suis au stade où j'essaie de le comprendre, de savoir où me placer par rapport à ma vie et à ma relation. Tu vois, c'est...
Parce que tu ressens quand même. C'est pas la base du truc où t'as l'impression de même rien ressortir et du coup tu sais pas...
Est-ce que j'ai un cœur, tu veux dire?
Ouais, c'était ma question politiquement correcte.
Non, je suis quelqu'un d'assez passionné, de très sensible. Donc c'est pas, j'ai pas de difficulté à ressentir les choses, bien au contraire. Même assez aimant, mais je pense que le fait de le ressentir, ça ne suffit pas à ce que l'autre le ressente que tu es en train de le vivre, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est particulier, c'est ce qui crée souvent dans les relations certaines complications, c'est que le dialogue, il se fait rarement sur le même langage.
Ouais.
Vu qu'on a des langages différents et qu'on a l'impression qu'on est en train de parler la même langue, on n'arrive pas du tout à se comprendre. Et on fait pas en sorte de se comprendre, parce que toi, tu parles allemand, moi, je parle espagnol, mais on croit que tous les deux, on parle anglais.
Ouais.
Tu comprends? Mais il faut qu'on essaie d'apprendre la langue de chacun. Et ça, c'est entre le moment où tu l'assimiles et le moment où tu le maîtrises, c'est assez... parce que je suis aussi coach
pour les couples. Et vous avez vu, Hitch, c'est sa vie à la base. Mais voilà, bon.
Ils ont fait le film. Oui, Smith.
T'as fait valider Will Smith. Toi, Pierre, tu dis je t'aime facilement?
Un peu trop facilement, quelquefois. Okay. Ça dépend. Alors, les parents, c'est trop dur, mais ils le voient très bien, parce que je témoigne mieux que toi, visiblement.
Ouais. Toi, au bout de deux heures.
Non, mais c'est marrant. Tu vois, les copains, oui, éventuellement, ivres tard, mais au-delà, j'ai pas de mal à dire aux potes. Je trouve que les potes, c'est pas trop intime, en fait, même si on est très, très, très proches. Mais quand je dis je t'aime trop facile, c'est... tu parlais d'un moment de joie, tu vois, d'un moment d'intimité, on parle d'une baise, tu vois. Bah, en fait, un petit je t'aime peut vite sortir comme ça, alors qu'il n'a pas du tout lieu, en fait. Enfin, c'est pas...
Tu sens que c'est des je t'aime qui peuvent casser un peu l'ambiance,
d'accord? C'est horrible, en fait. Bah, ouais, c'est pas...
Je l'ai dit je t'aime, que c'était un orgasme.
C'est quand le moment est trop bon, tu vois, et que t'as... Et c'est pour créer l'orgasme, presque. Mais mis à part ça, oui, c'est difficile de dire je t'aime à ses parents, bien sûr. Ça, c'est le plus dur, je pense.
C'est trop marrant, du coup, que t'arrives à dire je t'aime plus facilement à des gens où potentiellement tu le penses moins que...
Ouais, c'est ça. C'est vraiment une sorte de... C'est du piment, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que je suis pas tombé amoureux encore véritablement non plus, donc j'ai pas été confronté. En couple, j'ai jamais dit vraiment je t'aime, parce que j'ai été une seule fois en couple.
T'as le je t'aime aphrodisiaque, quoi.
Ouais, exactement. Pas toi, je pense que c'est un truc très universel.
Est-ce que vous avez posé des questions sur votre orientation sexuelle, ou genre ça a été acté dès le départ et vous avez dit bon, je sais que c'est la mienne?
Moi, je me suis posé la question pendant un moment sur... tu sais, l'ouverture sexuelle, quand je me posais des questions sur vastement l'homosexualité, je me suis dit si c'est quelque chose de normal et de naturel, pourquoi moi je pourrais pas être attiré par un homme? Et je me suis presque à un moment donné posé la question de est-ce que je suis normal si c'est pas quelque chose que je peux imaginer. Mais j'ai jamais eu de relation ou quoi, ou même de d'attirance.
Crush, ouais.
Et le fait de pas l'avoir, je me suis posé la question. Parce que tu vois, quand tu réfléchis à tout ça de manière très pragmatique et intellectuelle, du coup, tu te dis, ça devrait être une éventualité aussi dans mon champ d'action. Mmh. Et si ça l'est pas, est-ce que ça veut dire quelque chose de moi? Je me suis déjà interrogé là-dessus, ouais. Mais, il y a des mecs que je trouve très attirants, mais j'ai pas du tout le truc. Okay. Neymar, par exemple, c'est complètement mon crush.
Ah, tu le trouves pas beau, c'est même attirant, quoi. Tu dis, si on se croisait, il pourrait se passer un truc.
Écoute, c'est un peu marrant parce que j'ai un sketch où je parle de ça.
Ok.
Où je dis, Neymar, si je le croise, je serais.
T'as choisi le mec, puis tu croiseras jamais, quoi. C'est trop facile.
Non, attends,
c'est marrant. je dirais, hey, tout bon, tu sais, je serais un peu. Et là, cet été, je l'ai croisé. Et tu sais, je me retrouve dans... Et j'ai la panique parce que je me dis, putain, j'espère qu'il a pas vu ce sketch. Ouais.
Et tu dis, je me suis avancé publiquement en plus maintenant. Donc
Ce que j'ai dit...
Il va falloir prouver maintenant.
Non, mais tu sais, je dis en plus, si je le croise, c'est sûr que je rougis et tout, tu vois. Je vais un peu loin et tout. Et je le croise. Et c'est dans un club et tout, je le croise comme ça. Et c'est très bizarre, mais je le vois. Et donc, dans mes yeux, ça s'est vu. Je dis, oh, Neymar, j'ai rien dit du tout.
Ouais.
Et il s'est arrêté, il m'a serré la main. Donc, dans ma tête, c'est OK. Peut-être qu'il a vu le sketch.
Okay.
Et donc ensuite, quand il est parti, je te jure, j'étais en sueur. Et je savais pas si c'est parce que j'ai checké Neymar, c'était par rapport. Mais ça m'a vraiment fait l'effet que dans le sketch, tu vois.
Tellement de feelings différents.
J'étais dépassé. C'est Neymar vient de me serrer la main. C'est pas genre je viens de le croiser, genre il s'est arrêté, il est venu me. Donc il y a peut-être le côté un peu admirateur ou quoi, mais Mais ouais, il y a des mecs, je me dis, ouais, ce gars-là, c'est vraiment un beau mec, quoi.
Ouais.
Mais c'est jamais arrivé au stade où ça a questionné ma sexualité, pour le moment, en tout cas.
Mmh. Bah, ça a été un peu le même processus, ouais. Tu vois, où je me suis posé la question. Mais pareil, il y a évidemment des mecs que je trouve très séduisants, très beaux.
Séduisants.
Oui, carrément. Mmh. Ouais, ouais. Mais en plus, bon, alors, ça m'arrive assez régulièrement que des hommes me draguent.
Ok.
Va savoir pourquoi, je sais pas.
Oui.
Ouais.
Non, je vois. Non, mais
il a regardé la hauteur de mon dégradé, il s'est dit, je sais pourquoi, moi.
Et ben, souvent, de très beaux mecs, mais pareil, j'ai jamais... Et pourtant, on peut passer de très jolis moments. Je peux aussi assez facilement me laisser prêter à ce jeu-là, okay, en fait. Ouais. Parce que c'est flatteur et que...
Ah, du coup, rentrer même dans un espèce de mini-flirt.
Bah, presque, ouais. Tu vois.
Toi, Pierre, ça a été limpide dès le départ.
Non, c'était pas limpide pour le coup. Je sais pas à quel âge exactement, mais très tôt, 11, 10, 12 ans, quand on commence à avoir de l'attirance, pour d'autres personnes, je me rends compte que c'est plutôt les garçons, en fait. Mais c'était un peu relou, en fait. Parce que à 12 ans, on n'a pas envie de ça du tout. Et donc, j'avais aucune envie. Donc, j'ai fait comme beaucoup de gens, je pense, qui passent par ce truc-là. Il y a des tests sur Google, il y a plein de choses, tu vois. Suis-je gay? Tu réponds à des questions.
Putain, la génération déjà, c'est ouf.
C'est vrai, en effet, t'as peut-être passé à 12 ans, quel âge?
J'ai 32 ans.
12 ans, on n'avait pas la DSL,
ouais,
je crois.
Ouais. On pouvait faire cette recherche, mais ça durait beaucoup.
Oui, ça charge. Mais c'était quoi le type de question, tu te rappelles?
Oui, bien sûr, c'est le truc, j'aime Lady Gaga, ça commence mal.
C'est drôle.
D'accord.
Mais j'ai vécu mon truc, dans ma tête, c'était pas possible, j'imaginais pas, je pouvais pas être gay, en fait, alors je l'étais, bien sûr, je le savais, mais je pouvais pas le vivre ouvertement, je le vivrais jamais d'ailleurs dans ma tête. Et je me suis dit pendant longtemps que je vivrais seul, je sais pas, dans un manoir en école, j'avais un peu ce storytelling que je racontais à tout le monde, ni femme ni enfant, mais ni homme non plus d'ailleurs.
Parce que tu préférais être seul à ce moment-là qu'avec un mec.
Bah, en tout cas, aux yeux des gens, pour moi, c'était une obligation. Et puis, en fait, ça a été comme ça pendant 6 ans, quasiment. Et un beau jour, je suis tombé amoureux, véritablement. Autant une orientation sexuelle, ça se cache, entre guillemets, plus facilement. Et t'as pas besoin d'en parler, forcément. Ouais. Mais l'amour, c'est trop fort, tu vois. Et donc, je suis tombé amoureux, mais sans qu'il y ait de réciprocité, comme souvent. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dû en parler à mes potes. Et donc, c'est petit à petit, ça s'est fait comme ça.
Et à partir de quand, tu t'es dit, bon, bah là, j'assume totalement qui je suis?
Bah, du coup, j'en ai parlé à ma meilleure amie, puis c'est que souvent comme ça, c'est les meilleurs copains, les meilleurs amis. Quand j'ai 18 ans, tout s'est enchaîné, tu sens une sorte de nécessité de le dire. Alors, j'en ai parlé à ma mère d'abord, et puis à mon père 3 mois plus tard. Et tout s'est très bien passé, parce que j'ai une famille extraordinaire, très, très cool avec ça. Et j'ai jamais fait un truc public, j'ai jamais fait un coming public. D'ailleurs, en tant qu'artiste, c'est marrant parce que c'est pas un combat que je mène forcément ou quoi. Alors, on le sait parce que j'en parle tranquillement avec vous, en média et tout ça, si on me pose la question. Mais comme j'en ai pas souffert tellement, comme je trouverais ça très opportuniste et arriviste d'arriver à en faire un combat, être porte-étendard d'un truc qui est, moi, j'ai d'autres causes, j'ai envie d'amener la musique partout, dans des milieux qui peuvent pas se permettre. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, et pour moi, c'est évident. Et la cause LGBT, je pense qu'elle est hyper importante, il y a des gens qui la défendent très bien, et moi, je pense que je la défends à ma façon, en parlant tranquillement. Ouais. Mais dans les chansons, c'est pas pour autant que ça devient un truc, et mon esthétique ne l'est pas. Très souvent, c'est marrant parce que quand je vois des réels et tout ça, ils ont envie, comme ils savent que je suis gay, de parler média et tout ça, de me faire porter n'importe quoi, genre des robes ou quoi, ce qui est pas un souci en soi, mais moi, je porte pas ça, ça me va pas, j'aime pas ça, je suis trop grand, ça.
Moi, je peux.
Ça me convient pas, tu vois, mais très bien. Et en fait, il y a une sorte de... Du coup, il y a un lien qui est fait. On se dit, bon, bah voilà, il est galant, on va le rendre très féminin.
On te rentre dans des codes qui...
Direct, sont qui sont pas les miens, en fait, qui sont pas les miens. Moi, j'aime bien porter du sportwear, j'aime bien porter des trucs très chill et tout ça. Très souvent, non, c'est pas forcément.
Et justement, parce qu'on parle de style vestimentaire, est-ce que vous êtes déjà senti jugé sur un truc que vous avez porté? Vous avez dit, vas-y, ça, je le sors, et vous sortez, et tu sais, on te dit... Faut pas le porter, ça.
Ouais, mais j'en rigole, moi. Je sais pas vous, mais ouais, c'est plutôt les shorts, tu sais, l'Olympia, j'avais un short à floche comme ça, rose, qui est un peu particulier. Moi, j'adore, mais j'en fais presque une blague, en fait, moi-même. Donc les gens, ils trouvent ça drôle plutôt que gênant, tu vois.
Ouais.
Je sais pas vous.
Plus jeune, surtout.
Ouais.
Ouais, il y a eu beaucoup de...
Adolescence, genre.
Beaucoup de tentatives, ouais. mais je me permettais pas tout, mais je me permettais beaucoup de choses. Mais ça va du slim quand j'arrive dans mon collège en 6e.
Ouais, t'abuses.
Non, mais... Attends. Bah non, mais bon, voilà. Tu vois, ça va de ça à des tenues un peu plus excentriques, tu vois.
Donc, très utile.
Osé, quoi.
Tu t'es déjà dit, vas-y, je rentre dans le moule pour faire mon vague.
Franchement, non, jamais. Okay. Non. Bon, ouais, petit, bah, tu sais, tu prends peut-être plus difficilement la critique.
Ouais.
voilà, tu te sens un peu jugé, puis les enfants, les adolescents, ouais, sont quand même assez...
Tu as plus envie d'être accepté par le groupe.
Comment, oui, y a, je pense aussi un petit peu de ça. Puis après, en grandissant, non, tu portes ce qui te plaît quand tu as envie. Non, ça maintenant, c'est plus du tout un sujet quand je me regarde devant ma glace avant de sortir, quoi. Tu
vois. Parce que quand je t'ai découvert dans Nouvelle École, tu avais un style déjà très marqué, je trouve. Mm-hmm. Il y avait un truc très british et tout, tu vois, où je me suis dit, ah ouais, il assume une vraie identité.
Ouais, ouais, bah, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait de la danse et on accordait aussi beaucoup d'importance aux vêtements. Ouais. Enfin, en fait, pour tous les arts de la scène. Et après, même moi, dans mon quotidien, la mode m'a toujours intéressé. Okay. Et donc, forcément, voilà, j'ai exploré. Mm-hmm. J'ai exploré et je pense avoir trouvé quelque chose qui me correspond plutôt bien. Donc,
j'ai l'impression que plus on s'intéresse à la mode, en plus, plus on se permet des pièces étape par étape qu'on n'aurait jamais, essayé avant. Oui. Où là, on fait, mais bien sûr, ce kilt, mais tu déconnes, quoi. tu sais par quelle année. Alors qu'en fait, 3 ans avant, on n'aurait jamais
essayé. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça.
Toi, Farid, il n'y a pas une anecdote avec un survêt rose?
Mais d'où t'as trouvé cette anecdote?
Tu crois que je travaille pas?
Attends, c'est dingue cette histoire.
Il y a des trucs écrits. C'est vrai qu'il y a des
trucs. Mais moi, c'est l'histoire de ma vie, moi. Je sais que quand je mets un truc et que les gens se moquent, c'est que je suis sur la bonne voie. Ah. Et du coup, ça, c'est l'une de mes frustrations, d'ailleurs, de ces dernières années. C'est que les gens ont tellement accepté que je puisse mettre, en tout cas dans mon entourage, que je puisse mettre tout et n'importe quoi, qu'il n'y a plus de...
Ah, ça surprend plus personne. Ouais.
Et du coup, je cherche un petit peu...
T-shirt blanc, peut-être un basique, c'est
quoi. En fait, c'est ça. Ouah. Faut un jean basket, ouais, voilà.
Je te jure, si je mets un jean, les gens, ils sont choqués. Et donc, oui, quand j'étais au lycée, une fois, c'est le marché devant chez moi, il y avait un survêt rose. Ma mère, elle nous a éduqués avec l'idée que il n'y a pas de choses qui sont réservées aux filles ou aux garçons. Et donc... Par exemple, quand on était tout enfant, elle aimait pas que les gens ils puissent nous laisser entendre qu'on puisse pas jouer avec un bébé, par exemple.
Ouais.
Elle disait, bah, il va être papa à un moment. Mmh. Donc, pourquoi il pourrait pas jouer avec un bébé ou une poussette ou, tu sais, la dinette, parce que la vaisselle, c'est pareil, on la faisait à la maison. Et donc, pour moi, le rose, c'était pareil. Je vois pas pourquoi le rose, c'est réservé aux filles. Et donc, je vois ce survêt rose et je sais que ça va être différent. Je sais qu'auprès des gens, ça va faire polémique et qu'on va m'en parler, genre, ah, tu portes du rose, et que du coup, moi, je vais dire, bah, je vois pas pourquoi le rose. Tu vois, j'avais déjà ce truc un peu contestataire.
Parce que là, t'es adolescent à ce moment-là.
Ouais, je suis adolescent, j'avais 16 ans.
Okay.
Et donc, j'ai porté ce survêt rose au lycée. Et ça a tellement posé problème que j'ai été convoqué.
Ah ouais.
Et
donc, c'est même pas les enfants, c'est...
Ouais.
C'est l'établissement, quoi.
L'établissement. Ok. Et ils m'ont demandé de ne pas le porter.
Mais le motif, c'était quoi?
Bah, c'est que, genre, c'était pas un habit approprié.
Ok.
Ils considéraient que c'était pas approprié pour aller à l'école que de porter un survêtement rose. Enfin, tu vois, c'est j'en reparle aujourd'hui. C'est fou parce que c'est une couleur, quoi. Mm. Le même survêt, si j'étais arrivé en bleu, on m'aurait rien dit du tout.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, c'était assez fou.
Quel rapport vous avez avec votre style vestimentaire par rapport à votre corps? Est-ce que vous avez l'impression que ça camoufle tous, hein, j'ai un peu le... La réponse va être forcément oui. Moi, je sais que je parle de l'oversize parce que je suis assez mince et que j'ai l'impression que, tu sais, que ça me...
Non,
mais là, c'est pas vraiment ma peau. Hein. C'est un déguisement. Mais... Non, mais tu vois, je sais que ça me gonfle entre guillemets un peu, tu vois, plutôt que d'assumer ce truc-là. Est-ce que vous, pareil, il y a des complexes que vous avez, où vous avez réussi à déjouer ça un peu avec les fringues ou pas du tout?
Carrément, ouais, complètement, vraiment, surtout pour la scène, en fait.
Ah ouais.
Parce que, bah, comme toi, je suis assez mince, mais en plus, je suis très grand. Donc, ça fait vraiment une sorte de doigt, c'est un truc très, très fin, quoi.
De doigt.
De doigt, finalement. Et bref, j'aime pas trop ça au départ. Mmh. Et pour monter sur scène, par exemple, un jour j'ai porté un costume pour la première fois de ma vie, vraiment un costume bien taillé, tout ça, un peu cintré.
Ouais.
Et en fait, ça m'a changé la vie, mais véritablement par rapport à ma perception de moi et par rapport à ce que je pouvais faire en termes de mouvement. Je ferais pas les mêmes gestes si je porte un jogos ou alors si je porte un costume, ça va pas être la même chose. Enfin, je vais même pas faire les mêmes choses parce que je serais pas à l'aise de le faire et tout ça. Et donc j'ai complètement accepté. Ça a sublimé, ça vient créer une silhouette que je trouve beaucoup plus esthétique, ça fait, ouais, c'est une sorte de carapace. En même temps, c'est pas une je me cache pas derrière ça, c'est juste j'embellis le truc, tu vois. Et la scène, c'est ça, on pousse tous les curseurs et on essaie d'être.
Oui, parce qu'en plus, ça camoufle pas ton corps.
Ça crée un truc qui est cool et je trouve. Donc, ça a aidé, bien sûr, sur mon acceptation du corps et en plus de ça, sur l'identification, tu vois.
Elfie, toi
Bah, c'est assez différent parce que j'ai jamais. Enfin, je me suis toujours. C'est sûrement une chance que j'ai eue, mais de me sentir toujours assez bien dans mon corps,
ouais.
Même en étant plus jeune, etc. Donc, les vêtements, ça a toujours été un plaisir, tu vois, une okay. envie d'explorer. Après, c'est sûr aussi que c'est quand même la première chose qu'on voit, c'est la première image qu'on renvoie. Donc, le regard des gens aussi, quand même, joue dans ma vie de tous les jours. Enfin, voilà, je dirais pas que je suis totalement en confiance tout le temps et que rien ne peut m'atteindre.
T'as zéro complexe ?
Bah, je crois pas. Pas, ouais.
Il a fini le jeu.
Ça.
C'est fou.
Je vais dire ça la semaine prochaine. Je vais te rappeler. En fait, attends, on peut retourner 10 minutes. Tu le rappelles. Ouais. Mais du coup, non, ça a toujours été un réel plaisir que de m'habiller. Ouais. Et puis après, en grandissant, en plus, tu t'intéresses aussi à pas qu'aux vêtements, mais à vraiment la mode. Enfin, tu vois, je me suis plus intéressé à la, enfin, tu sais, à la haute couture, etc. Ouais. Et à découvrir un peu tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, en fait, ça m'a complètement fasciné. Et donc, c'est cool parce qu'à chaque fois que je creuse encore un peu plus, ouais. bah, ça me donne encore plus envie d'aller chercher, de m'intéresser à ce milieu-là. Et voilà. Mais donc, ça a toujours été une, ouais, un plaisir, quoi, que de m'habiller cool, et économiser plein de sous pour pouvoir acheter des trucs que je peux ouais. pas acheter pour l'instant.
Et dans le monde du rap, il y a des trucs, des fois, où tu t'es dit, ça, ça me plaît, mais dans le monde dans lequel j'évolue, je peux pas trop me le permettre.
Bah non, mais alors, pour la simple et bonne raison que je suis pas non plus l'artiste qui prend le plus de risques, okay. en vrai, tu vois, en vestimentairement parlant. Mais je trouve aujourd'hui quand même qu'on a réussi à casser plein de codes. Enfin, ouais. tu vois, de voir Young Thug en robe sur sa pochette d'album, ça peut être vite fait surprenant, mais en vrai, ça choque personne. Youfdi qui a, tu vois, un art différent sur chaque ongle, ça choque personne non plus. Ça, c'est cool, tu vois, c'est quand même des barrières qu'on a réussi à briser. Ouais. Donc, voilà, je sais pas si on est arrivé...
En France, moins.
Tu vois,
en France, un peu moins en France.
Ouais. Ouais. ouais, peut-être, ouais.
Dans le rap, en tout cas...
Ouais. On a moins d'exemples parlants ouais. en France.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et Youfdi, tu vois, il est parti dans le rock en plus.
En plus, ouais.
il a quitté le navire. On a perdu le seul français qu'on avait.
C'est vrai. C'est
ouais,
vrai.
Donc, je suis d'accord ouais. avec toi. Ouais. C'est encore un peu sage.
Oui.
C'est trop cool. Moi, c'était le premier que j'entends dire moi, c'est OK, tu vois, les fringues et tout. Moi, j'ai eu des moments, des fois, dans des magasins, tu sais, cabine d'essayage où j'ai essayé 15 trucs. Rien me va. Mmh. Et donc, le dénominateur commun, c'est mon corps. Donc, ouais, je me dis, tu sais, t'es là à phaser, tu fais. Bah, tant pis, je m'habille plus en fait, qu'est-ce qu'on fait
ouais,
et surtout adolescent et tout, c'est quand ton corps ouais. il change, que tu comprends plus trop ouais. et tout. Et après, il a fallu que je comprenne les logiques un peu de mon corps et de me dire non, mais en fait, pas à l'habit de s'adapter à toi, c'est à toi de trouver les bonnes fringues qui vont te mettre en valeur et tout. Quoi.
Les tatouages, t'as aidé
En vrai, je me suis longtemps demandé si les tatouages servaient à camoufler mon corps ou pas. Mmh. Et je pense que ça l'a pas été entièrement, mais je pense qu'il y a une période, les premiers, j'ai commencé il y a 11-12 ans. Les premiers ont aidé à m'accepter, mais pas pour camoufler mon corps,
c'est
mais plus pour
t'accepter. C'est le même principe.
Mmh. Mais plus pour montrer ouais. ma personnalité.
Ouais, ouais.
Tu vois qu'il y a un truc de ok, on voit qui je suis avant de camoufler juste mon corps.
Mais il y a un truc de si je fais quelque chose que j'aime bien sur ce corps que j'ai du mal à accepter, bah je vais un peu plus aimer mon corps. Mmh. En tout cas, avec le temps, je crois que c'est la logique dans laquelle moi-même j'ai été avec les tatouages, mais comme les habits, ouais. Les habits, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas permanent. Moi, je sais que la fourche basse sur les pantalons, c'est par rapport au pareil, la minceur,
okay.
les jambes très longues, parce que j'ai des jambes très longues par rapport à mon buste, donc j'essaie de composer, mais du coup, ça devient une façon de s'exprimer, une façon de créer, parce que du coup, tu essaies de composer avec la matière que tu as au départ. Mmh. Mais c'est beaucoup, dans mon cas, en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup un camouflage. Ouais.
Ah ouais,
ouais.
Encore aujourd'hui, du coup, il y a encore ce truc...
Peut-être un peu moins, parce que la fille avec laquelle je suis, elle travaille dans la mode, donc ça a beaucoup ouvert ma perception, ma vision d'un physique, de la façon dont tu pouvais mettre en avant ce que moi, je référence comme étant des défauts. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus libre là-dedans, mais c'est encore une façon de... qu'on voit mon style avant de me voir moi, quoi, encore aujourd'hui.
Mmh. C'est trop marrant parce que je suis sûr que tu demandes à des gens dans la rue, est-ce que vous pensez que Farid a des complexes physiques ? Je crois que 95% des gens disent évidemment que non, il se permet de tu vois, non mais il se permet de s'habiller, de
parce qu'ils m'ont pas vu en slim.
Ah c'est ça, mais... tu vas dire en slip.
En slip aussi. En slip ça ira. Mais oui, je pense que c'est parce que je le fais bien. Mais ouais. T'as des complexes quand t'es un peu perfectionniste et que tu réalises que la seule chose que tu peux pas réellement perfectionner, c'est ton physique du coup. Mmh. Ou alors faut se donner beaucoup de travail à la salle et quand t'as une vie d'artiste, c'est un peu plus compliqué quoi. Ou faire la chirurgie esthétique.
Ouais.
Et même à ce moment-là, plus tu avances dans la perfection de ton physique et plus tu développes en réalité des complexes. Mmh. Et donc, je pense que ouais, c'est un espèce de dénominateur commun parce qu'on est aussi dans une culture de l'esthétisme, en tout cas du selfie, du filtre. Donc, tout nous ramène à ce qui devrait être un peu uniforme, un peu esthétisé, un peu plus beau, quoi.
LP, t'as une punchline qui m'a touché. La vidéo s'appelle les punchlines. Ouais.
D'accord, ok, cool.
Tu dis, quand je suis trop touché, je quitte la pièce, sinon ça va se voir. Mm-hmm. Bah, encore aujourd'hui
Encore une fois, on y travaille. Mm. On y travaille, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à masquer mes émotions. Mm. Quand je suis content, ça se voit. Quand je suis contrarié, ça se voit. Quand je suis pensif, j'arrive jamais à... Ouais. Poker face, ça n'existe pas chez moi. Je serais très nul au poker, je pense, par exemple.
C'est vrai. Ouais. Après, il y a des lunettes, donc ça peut...
Ouais,
ça
rééquilibre
tout. Mais... des lunettes de table.
Voilà, exactement. Elles ne se portent pas. Elles ne se portent pas. Je pense même si tu cachais la moitié de mon visage, ouais. Le reste dirait okay. Tout, quoi. Donc, voilà.
Et est-ce qu'il y a des émotions que vous cachez plus facilement que d'autres? Moi, je sais que, par exemple, la tristesse, c'est encore aujourd'hui un truc... Même moi, je pleure facilement devant des films et tout, même enfin
ah ouais
devant des films, devant des émissions, des trucs. moi, tu sais, les émissions d'histoire de vie et tout, c'est trop beau. Voilà. Et j'ai encore un truc où quand je suis et je me rends compte que c'est tellement social que même tout seul, je réfrène le truc. Tu sais, même quand potentiellement personne me voit, je suis en mode non, c'est bon, on va pas pleurer devant ça et tout. Est-ce que vous avez aussi un peu ce truc-là?
Je trouve que c'est intéressant la scène par rapport aux émotions qu'on cache parce que je trouve que c'est que ça, c'est de faire semblant que tout va bien quand tout va mal. Un peu. Tu vois, il y a ce truc où je sais pas toi aussi, mais j'imagine certainement que il y a des trucs que tu pensais que tout le monde rirait et les gens rient pas et ça peut te déstabiliser.
Non, ça n'arrive jamais.
Et tu sais, c'est quoi, surtout en festival où tu arrives sur le festival, les gens sont pas forcément là pour toi, d'autant plus moi où je suis pas du tout tête d'affiche, donc les gens ils viennent voir Angèle à 23h, pas Pierre Demar à 15h. Tu vois.
Qu'est-ce qui arrive sur scène auquel tu t'attends pas, par exemple, au festival?
Par exemple,
genre
tu vois,
la chaleur du public.
ce qui est arrivé, moi pour l'instant, il y a pour ma carrière qui débute, il y a un morceau qui est très connu et un demi-tube. Okay. Un tube et demi. Et en fait, dans les grands festivals, je joue normalement le tube qui est le plus connu, parce que c'est un jour, je marie un ange, et je le joue en dernier, sauf il en reste un derrière. Et c'est arrivé, mais c'est arrivé deux fois cet été, que tu t'ajoutes ton truc. Et à côté, il y a Luigi, n'importe qui commence un show, et du coup, genre, chut, et t'as la moitié des gens qui sont... Et parce que les gens, ils sont venus pour ça, en fait.
Ouais,
tu vois.
Ouais.
Bah oui.
Et,
faudrait le faire en boucle.
Il faut que ça vienne.
Un morceau sur 30 minutes.
Une piste.
Vous jugez beaucoup? Parce que j'ai l'impression que toi, tu te juges énormément.
Bien sûr, je pense que c'est normal, non? Je pense.
Je sais pas. Ouais, moi, je suis... Moi, en plus, il y a vraiment des périodes où, tu sais, je le verbalise, et là, je me dis, vas-y, faut arrêter. Le moment où tu dis, mais t'es vraiment une merde. Et tu t'entends, tu dis, mais si quelqu'un m'a dit ça...
Comment tu me parles?
Je me prends la tête avec moi-même, je me dis, t'es toxique, man. Non, mais... ouais, vous êtes dur avec vous-même ou...
Ouais, plutôt.
Ouais.
Ouais, quand même. Et dans toutes les étapes, que ce soit en studio, je suis rarement sorti satisfait d'une séance de studio. Mmh. Quand je descends de scène, le premier truc qu'on fait, c'est de se dire ce qui va pas.
Bon, là encore,
j'ai fait ma première date, vraie date à Paris. Donc là, il y a quelques jours.
Séance de studio, t'es rarement satisfait, tu dis?
Ah ouais,
normal, moi je suis comme toi.
Ah, je sors et je me dis, putain, voilà, encore une journée de gâchée. Enfin, c'est vraiment.
Ah ouais.
Faut qu'il y ait des gens qui viennent me rassurer, puis que moi, après, j'écoute plus le morceau pendant 5-6 jours, que j'y retourne et que je me dis, ah ok, ça c'est.
Mais comment tu sais que c'est bien du coup?
Bah après, recul, après tout ce. Voilà, avec le recul quoi. Mais ça demande du temps, ouais.
Et dans la vie perso aussi?
Oui, je pense. Enfin, avec moi-même, ça va. Moi, j'avoue, je me laisse pas mal porter par la vie.
Oui, ça a l'air assez chill, globalement.
Franchement, ça va. Mais avec les... Je suis exigeant dans ce que... Comment dire? Dans le comportement que j'ai, moi, avec les autres, par exemple, avec mes amis et tout. Tu vois, j'essaye vraiment de... Enfin, je sais pas, toujours être un peu le meilleur, tu vois. Et puis, enfin, Paul, du coup, possible pour eux, quoi. Donc là, c'est exigeant, mais sinon, avec moi-même, ça va.
Est-ce que cette anecdote, elle est vraie? J'ai l'impression de démarrer un nouveau jeu. Vrai ou faux? Est-ce que t'avais un sketch ou un moment où tu parlais d'infidélité, et ça, tu l'as enlevé parce que tu t'es dit, ah, les gens me jugent un peu et ça marche pas, donc ça...
J'ai mis très, très longtemps à réussir à sortir ce sketch, ouais. C'est assez intéressant parce que la réaction sur un spectacle d'humour, elle est un peu différente des autres formes de live parce qu'en fait, vu que ce qu'on recherche de façon générale, c'est pas une obligation, mais c'est du rire, y a certains sujets où tu vas les mettre dans ce qui est opposé au rire. Des fois, la gêne. Des fois, tu les mets dans une zone d'inconfort. Et l'infidélité, sur tous les pans du sujet, que tu t'es été infidèle, qu'on ait été infidèle avec toi, que tes parents, il y en a un qui était infidèle, donc c'était même pas dans l'histoire, mais et bah, ça te met tout de suite dans une zone d'inconfort. En fait. Ouais, grave. C'est une zone hyper... c'est pas un sujet qui est lourd, mais ça te met forcément dans une zone d'inconfort. Et quand t'es pas concerné par ça, et bah, du coup, tu vas juger la personne qui en parle. Ouais. Et donc, ça a été très compliqué. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à réussir. Je l'avais, je l'ai retiré, je l'ai remis, je l'ai remodifié. Ouais, ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. C'est marrant, tu vois, par exemple, je suis en tournée, j'ai fait la tournée internationale cette année. Et ce même passage, qui fonctionne plutôt bien en France, il a des résonances différentes en fonction de l'endroit.
Culturellement parlant.
Ouais, culturellement parlant. Quand j'étais à Montréal, par exemple, là-bas, ils ne veulent pas du tout rigoler avec l'infidélité. Okay. Au Congo, c'est pareil, c'était pas du tout une blague pour eux. Okay. Donc la salle, après, du coup, moi, j'ai assez d'expérience maintenant sur scène pour pouvoir rire du fait qu'on soit dans un moment de gêne, tu vois. Mais en France, ça va. En France, vas-y. Mais il y avait une certaine limite quand même de sincérité. Le moment où je dis, où je vais assumer le fait que je l'ai été, qu'à un moment donné, j'ai pas été honnête avec des femmes, même en me jugeant moi-même, même en montrant que je suis pas fier de l'avoir fait, et ben ça met quand même les gens dans un endroit d'inconfort.
Mais moi, typiquement, la fidélité / infidélité, c'est une thématique qu'on me demande depuis des années de faire une table ronde autour de ça. Mm-hmm. Et typiquement, je trouve ça hyper intéressant.
Je serais ton capitaine.
C'est parti, avec plaisir. mais en fait, tu vois, ça m'a moi-même mis dans un inconfort où je me suis dit, waouh, mais comment on aborde ça? Qui j'invite pour parler de quoi? Quel point de vue, etc.
Bah, comment t'en parles en plus?
Exactement. Et tu te dis, est-ce que, et pourtant, c'est le leitmotiv de ma chaîne où vraiment les gens, on les redécouvre, tu vois, il y a plein de personnalités qui viennent, on les découvre de manière hyper honnête et tout, mais quelle est la limite à chaque fois de cette sincérité? Et surtout, en fait, tout le monde dit, ah ouais, on veut que les gens soient honnêtes, on veut les découvrir différemment.
Jusqu'à quel point, quoi.
Jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'on est prêt d'accepter, d'entendre, etc. Quoi. Ça, c'est pas évident. Ou c'est touchy pour vous, les sujets fidélité, infidélité et tout?
Pas tellement.
Ouais.
Non.
Mais j'ai envie d'être toi, en fait.
Il n'y a rien. En fait, il nous avait tout dit dans sa voix au départ. Hein. Tout était dans la voix. On l'a
la sagesse.
La sérénité de la voix ne camouflait rien, en fait. C'était tout est honnête.
Non, mais je pense que c'est des choses dont il faut parler, mais c'est cool justement de pouvoir en parler un peu librement, que ce soit avec son sa partenaire ou que ce soit avec, avec son entourage, avec... je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit un sujet si sensible, c'est quelque chose de... c'est assez commun, quoi. Ouais. Enfin, c'est quelque chose que... Ouais.
Et en même temps, tu sais, quand tu dis est-ce qu'il faut pardonner ou pas l'infidélité, j'ai l'impression que là, tu sais, ça met chacun a son avis, truc, et j'ai l'impression que c'est hyper polarisant.
Ouais, mais il y a des gens, en fait, il y a des gens qui le vivent de façon extrêmement violente. Moi, je l'ai vu, et pas que dans mes relations à moi, c'est vraiment une blessure profonde parce que ça vient un peu comme une rupture, mais de façon encore plus exacerbée, c'est que ça vient remettre en question tout ce dont on parlait juste avant, qui est la confiance en soi, comment tu te vois, comment tu te sens perçu par les autres. T'as l'impression, du coup, que t'es pas assez bien, t'as l'impression que t'as été renié, trahi, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est si tendu. Enfin, non, moi, j'ai eu des longues conversations justement sur ce sujet-là avec mon père sur la fidélité. Moi, j'ai toujours vu comme un espèce de personnage qui justement remettait en question cette idée absolue de la monogamie. Et récemment, il m'a bien fait comprendre l'inverse. Il m'a dit tu verras que un jour, tu vas avoir besoin de retourner auprès de quelqu'un.
Ok.
Que c'est un espèce de à un moment donné, t'auras besoin de ce refrain dans ta vie, d'un espèce de pilier sur lequel tu pourras te reposer parce que ça va avec l'idée même de l'existence, quoi. Et ça a un peu remis en question toute l'idée que je me faisais de la monogamie parce que mon père, il a trois enfants de trois femmes différentes.
Ouais.
Et donc, forcément... à l'échelle de ma propre vie, c'est bah ok, bah, mon père c'est un quetard en fait, tu comprends, mais à l'échelle de sa vie à lui et de là où il vient, de sa culture, en fait c'est quelque chose qui est pas si différent que ça, presque commun même, et en fait c'est pas forcément un critère de quelqu'un qui voit la vie de cette façon là et moi c'est vrai que je suis plutôt de cette école de, je pense que le couple ça a un lien avec ce que tu es. Et ouais, le fait qu'il m'ait dit ça là récemment, je me suis dit peut-être que dans quelques années, je sentirai cette évidence de, bah en fait c'est ça l'idée même, ou en tout cas le but de l'existence.
Pour finir, il y a une question que j'aime beaucoup. À quel point vous vous sentez 100% aligné avec vous-même aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes à 100% ?
Un pourcentage ?
Ça peut être un pourcentage. Ouais. Entre qui vous êtes, comment vous l'assumez, la peur du jugement, etc.
Ouais, moi, je me sens assez aligné.
Moi aussi.
Ouais, très aligné.
Chercher le bon pourcentage dans ma tête. Je grave.
15,7.
Tout ce que je fais, en tout cas, je suis. Pas j'en suis fier, mais au moins je l'assume. Je me dis que c'est moi et que je prétends pas être qui que ce soit d'autre. Tu vois, j'ai accepté plein de trucs. Justement, quand on parlait tout à l'heure d'être cool et tout ça, sur les trucs comme ça, parfois on a envie d'être hype, on a envie d'être cool, on a envie d'être moins justement enthousiaste, moins extérioriser les choses. Et je me suis dit que c'était plutôt une richesse et que en vrai c'était cool.
Putain, moi j'avais une question tout à l'heure, j'ai oublié de la poser. Est-ce que, parce que tu disais que toi tu t'étais pas, tu te mettais pas dans une posture où tu étais dans une forme de militantisme, est-ce que le fait qu'il y ait eu des artistes avant toi qui soient dans cette forme là, est-ce que ça t'a aidé artistiquement ou dans ta vie personnelle ou pas du tout?
Bah, tu sais quoi, c'est marrant parce que les gens qui m'ont le plus aidé, c'est une bonne question, mais en fait, les gens qui m'ont le plus aidé à trouver ça tout à fait ok, de l'assumer pleinement et tout ça, c'est les gens qui... C'est genre un Taylor the Creator ou un Frank Ocean, tu vois. Plus que des figures hyper... En fait, c'est des mecs où juste... c'est pas un sujet, en fait,
ouais, ouais.
Tu vois.
Frank Ocean, c'est vraiment le badass.
Bah, c'est badass, en fait. Et du coup, tu vois des modèles badass, tu vois des modèles cool.
Encore une fois.
Ouais, ouais, ouais.
Et tu te dis qu'ils sont très cool.
Ah, cool. Tu voulais dire noir.
Bien sûr.
Absolument.
Pour revenir à ta question, je pense que je suis à un point dans ma vie où j'ai dépassé le moment où j'avais le sentiment d'être aligné avec moi-même. Et je pense que c'est une phrase de Roman Frécinet, d'ailleurs. Tu sais, la vie, c'est un peu une roue. À un moment donné, t'es en haut, il y a des moments où t'es en bas, quoi. Et je pense que je suis à ce moment où... Je pense qu'il doit avoir un lien avec la trentaine, avec où j'en suis dans ma carrière, où tout est un peu remis en question. Il y a toujours un petit peu ce sentiment de syndrome de l'imposteur qui me court après. Et puis, ça, j'en parlais, j'ai fait 30 minutes sur YouTube, vous pouvez aller le voir. D'ailleurs,
tu l'as pris tellement sérieusement. Bien sûr, on va cliquer, ça sera dans la description.
Où je parle du fait que j'ai du mal à me défaire de ma barbe, de ma coupe de cheveux, parce que c'est devenu moi. Malgré moi, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi où tu te sens moins homme si tu rases ta barbe ?
Bah, je me sens pas homme de manière générale.
Ok.
Ouais. Je me sens jeune homme. Je me sens, tu sais, garçon.
Ok.
Je me sens jeune garçon, mais je me sens pas homme.
Cool. Ah, c'est trop marrant. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a un an d'écart, par exemple. Pour moi, j'ai l'impression que toi, t'as ton âge. Toi, c'est ok. Pour moi, je te vois comme un homme. Et moi, j'ai un mini truc, tu vois, de. Moi, j'ai l'impression d'avoir 15 ans, tu vois.
Tu me vois comme un homme ?
Je te vois comme un homme. Eh ouais.
Ouais, je sais pas, je pense que c'est beaucoup une histoire de... Et c'est un truc contre lequel j'essaie de lutter, parce qu'en fait, il y a souvent l'idéologie contre la pratique.
Ouais.
C'est pareil pour toutes les idées qu'on peut avoir liées au fait d'être, tu sais, un peu de gauche, parce que on s'oppose à une certaine forme de consumérisme, mais en même temps, on est en plein dedans, parce qu'on pousse les gens à... Et ben, c'est pareil, idéologiquement... je t'ai dit, moi, j'ai grandi dans l'idée qu'il n'y a pas de façon d'être un homme, à part comme tu es toi. C'est hyper sain d'avoir un mec comme Timothée Chalamet qui incarne aujourd'hui le fantasme absolu au cinéma, parce qu'il il développe pas ses critères qu'on a de la masculinité. Et en plus, l'un des rôles qu'il a fait péter, c'est un rôle où il remettait en question justement sa sexualité. Malgré tout, j'ai quand même le fantasme d'avoir des pecs. Il y a cette dualité qui revient à un truc très simple du corps dans ma posture j'ai pas le sentiment d'être dans le corps d'un homme, parce que c'est pas ce avec quoi j'ai grandi comme exemple. Donc je pense pas qu'aujourd'hui je puisse répondre à 100%, pour revenir au pourcentage, être aligné avec moi-même. Je suis aligné avec ce que je représente en tant qu'artiste jusqu'à aujourd'hui, et ça j'en suis plutôt fier, mais en tant que personne, pas vraiment, non.
C'est trop intéressant ce que tu dis, parce que moi je réalise un truc de plus en plus, c'est que là avec ma meuf ça se passe trop bien, on a eu un bébé, on construit quelque chose.
Bravo.
Merci, bah, voilà. Et ce serait horrible, ça se passe hyper mal, si on peut en parler, vous avez deux minutes. Et en fait je me suis rendu compte que je me fous beaucoup plus du regard des autres ou de la validation des autres depuis que j'ai l'impression que, socialement parlant, le game est fini.
Ça a été accompli.
C'est que là, j'ai trouvé une meuf qui m'accepte 100%, qui je suis, etc. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins à prouver.
Je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir un enfant, ça remet en question tes priorités. Genre, il y a un côté, qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait.
C'est complètement.
Cette petite chose qui... je pense que c'est aussi un truc qui bouleverse un petit peu ta façon de voir les choses.
Carrément. LP, toi, t'es à 120% aligné avec toi-même.
Ça va. Non, mais je rejoins un peu ce que disait Farid. C'est vrai que c'est... Enfin, qu'il y a des cycles, en fait. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des... Enfin, même pas des semaines, mais plutôt des mois, des périodes où ça va mieux que d'autres. Et puis, voilà, après, on essaie toujours à se rattacher au fait que... Quand ça va pas, on sait qu'à un moment donné, bon, c'est normal, c'est le cycle, on va revenir vers quelque chose de plus positif. Et donc, ça nous permet de tenir. Et puis, quand on est en haut, on n'a pas envie que ça redescende trop vite. Et voilà, donc c'est... Ça dépend. Ça dépend, mais en règle générale, ouais, ça va.
Ouais. Moi, c'est marrant, quand j'étais adolescent, ces trucs de montagne russe, ça montait, ça descendait beaucoup plus haut et beaucoup plus bas et très rapproché.
Ouais.
Et je pensais que la vie allait être que des cycles très courts de c'est génial et le lendemain c'est horrible et tout. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les courbes commencent à s'élargir un peu et c'est un peu plus stable.
Ouais.
Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai l'impression de que les hauts et les bas sont plus chill.
C'est une très bonne analogie. C'est plus on passe de Space Mountain à la maison des poupées, quoi.
Exactement. Et alors je pense que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est un beau message d'espoir de vieillir. Ouais. Qui pour, des fois est un peu négatif, mais j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on est à l'aise avec nous-mêmes, et plus il y a des trucs, on se dit vas-y, c'est moins grave, on relativise beaucoup.
Tu l'as ta conclusion.
Je suis un professionnel. Merci les amis, vous avez kiffé.
Ouais, grave,
merci beaucoup. C'était trop bien, j'ai adoré. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez kiffé, c'est très important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.